Bienvenue dans Animag à la découverte des parcs animaliers durant tout l'été. Aujourd'hui, je reçois Grégory Breton, il est directeur adjoint du Parc des Félins. Le Parc des Félins, c'est une planète sans félins, ça se situe à Nesle dans le 77. On va tout connaître sur les félins, bien sûr. Grégory Breton, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes directeur adjoint du Parc des Félins.
Tout à fait.
Voilà, alors, le Parc des Félins qui est situé à Nesle, en Seine-et-Marne.
Exactement, à peu près à une heure de Paris.
Alors, première question, c'est quoi un félin?
Ça, c'est une très très bonne question. Le félin est un animal que l'on côtoie au quotidien, puisqu'il y en a à peu près 600 millions sur la planète.
600 millions?
Le chat domestique, le plus connu de tous. Et ouais. À l'opposé, il y a de nombreuses espèces sauvages qui sont en train de disparaître de notre planète. Les plus connues, tigres, guépards, etc.
Alors, justement, on dit que le chat est un félin. Enfin, on dit c'est un félin. Est-ce que tous les félins ont les griffes qui se rétractent? C'est comme ça qu'on peut reconnaître les félins, ou c'est une légende, ça?
Non, il y a une bonne part de vérité. En fait, tous les félins ont des griffes qui leur permettent de capturer leur proie. Et ces griffes sont rétractiles chez toutes les espèces. Maintenant, il y a quelques petites exceptions avec des petites différences anatomiques. C'est le cas du guépard, par exemple, du chat pêcheur et du chat tête plate, où les gaines qui servent à protéger les griffes quand elles sont rentrées n'existent pas. Donc du coup, chez le guépard, chez le chat tête plate et le chat pêcheur, ces griffes restent apparentes.
Mais c'est des félins.
Voilà. Mais ce sont des félins.
D'accord.
Donc les caractéristiques communes, c'est une tête ronde, des oreilles sur le dessus. Un tigre comme un chat domestique ou un marguet sont des animaux qui se ressemblent. Un corps très allongé, très svelte, avec généralement un avant très musclé et un arrière très élancé pour bondir.
Alors, le Parc des Félins a vu le jour à Auneau, hein, c'était dans le 28, en Eure-et-Loire, il y a quelques temps. Il y a combien d'années d'abord?
Le parc a été créé à Auneau, dans l'Eure-et-Loire, en 98, et faute de pouvoir s'agrandir, on a décidé en 2006 de déménager.
Alors, d'où est venue l'idée de créer un parc autour des félins? Parce qu'il y a que des félins, on est bien d'accord?
Il y a que des félins. Depuis l'année dernière, il y a une nouvelle famille d'animaux arrivée. On a quelques lémuriens en plus pour faire plaisir aux visiteurs. Lémuriens sont des petits primates, en fait. Mais notre spécialité, effectivement, c'est l'élevage des félins. Nous sommes le seul parc de ce type au monde, c'est-à-dire que il n'y a pas d'équivalent aux États-Unis, il n'y a pas d'équivalent en Afrique du Sud, il n'y a pas d'équivalent au Japon ou en Angleterre.
Oui.
Nous avons 140 félins ici au parc qui appartiennent à 30 espèces différentes. Les gens qui souhaitent voir à la fois des tigres, des panthères des neiges, mais aussi découvrir des espèces moins connues comme les marguets, les oncilles, les chats rubigineux ou les panthères nébuleuses, ils peuvent faire tout cela dans notre parc.
Voilà. Alors d'où est venue l'idée justement de créer un parc autour des félins, et pourquoi pas autour des singes, ou pourquoi pas autour des tortues par exemple?
Ah bah c'est aussi une très bonne question. Alors il faut savoir que des parcs zoologiques spécialisés, il en existe de par le monde. Quelques-uns spécialisés dans l'élevage des primates et dans la sauvegarde des primates, d'autres pour les oiseaux. Et les félins, ils n'en existaient pas jusqu'à ce que Patrick Jardin et Thierry Jardin, qui sont deux frères normands à l'origine, qui après avoir fondé le parc Cerza à Lisieux, un très très beau parc zoologique, ont décidé d'aller plus loin, de pousser plus loin leur philosophie. Je pense qu'on va y revenir. Leur philosophie pour le bien-être des animaux, ils ont décidé de créer un parc spécialement consacré aux félins.
D'accord. Et c'est vraiment pour le bien-être des animaux. Donc on va voir un petit peu, on va découvrir le parc tout au long de cette émission. Ça va aller du lion et ça. Il y a des chats ou pas?
Oui, mais pas des chats domestiques.
Pas des chats domestiques,
voilà.
D'accord.
Pas des chats domesticables. On pourrait y revenir sur la domestication si vous voulez plus tard. En tout cas, une chose est certaine, c'est que nos auditeurs peuvent consulter notre site internet, parcdesfelins.com.
Oui.
Il y a plein d'informations sur ce site. Et en fait, qu'est-ce qui nous caractérise au-delà de simplement élever ces félins? C'est qu'on élève ces animaux dans des conditions de captivité raisonnée. Je ne sais pas, c'est difficile de parler de la captivité sans avoir en mémoire les vieux parcs zoologiques avec des vieilles cages.
Justement, on va y venir, on va peut-être pas parler des vieux zoos, mais par contre, je voudrais savoir, il y a vraiment, quand on fait ce type d'émission sur les parcs animaliers, il y a plein de gens qui nous écrivent, qui sont super contents.
Bien
et
sûr.
Il y en a d'autres qui nous disent oui, mais les animaux sont malheureux. Alors, vous avez 2-3 minutes pour nous expliquer peut-être le contraire, ou pour justement expliquer à ces gens-là qui disent oui, mais ils sont malheureux, ils sont derrière des cages.
Oui, tout à fait. Ça, c'est très intéressant, parce que nous, au parc, on a des visiteurs de tous horizons. Il y a des gens qui sont très contents parce que dans notre établissement, ils voient les animaux dans de grands espaces. Je vais souligner quelques exemples. On a des tigres qui vivent dans des enclos de 1 hectare à 3 hectares et demi,
oui.
Alors que dans la plupart des zoos, ils ont maximum 1000 mètres carrés. Non, pas 1000 mètres, pardon, 300, 500,
un petit peu plus.
Donc, ils ont vraiment, vraiment de grands espaces. Alors, il y a des gens qui sont très satisfaits de voir les animaux dans ces conditions-là. D'autres visiteurs qui payent pour voir des animaux, et ils veulent les voir tout de suite maintenant, comme quand on allume la télévision ou Internet, on veut tout tout de suite maintenant. Donc, les parcs zoologiques doivent faire un petit peu ce compromis. Nous avons accès plutôt vers le bien-être des animaux. Donc, nos animaux ont de grands espaces parmi les plus grands enclos en captivité. Et alors, les histoires de bien-être, c'est très compliqué à ressentir. Mais en ce qui concerne les félins, il y a déjà deux arguments importants. C'est qu'en captivité, les félins vivent plus longtemps que dans la nature.
Oui.
Voilà. Donc, je parle pas des dauphins ou d'autres animaux où là, c'est assez compliqué. Mais pour ce qui est des félins, un tigre ou un lion va vivre 20 ans en captivité, alors que dans la nature, ils vivent 13, 15 ans. Donc, c'est déjà un argument pour lequel, on va dire, la captivité n'est pas si mal. Et puis après, la deuxième chose, quand on leur donne de grands espaces, comme c'est le cas chez nous, nos félins peuvent chasser.
Ah, carrément, ouais.
Carrément. Ouais. Hier encore, on a une femelle guépard qui a passé une après-midi allongée à 30 mètres de lapin, et le soir, à 19h, les quelques derniers visiteurs qui étaient là, ils ont vu la femelle guépard foncer sur un lapin, elle a chopé son lapin, elle l'a attrapé, elle l'a mangé.
Ouais.
Donc, pour permettre ces conditions-là, il faut que les animaux soient dans des champs, dans des milieux ouverts, où il n'y ait pas de béton, si vous voulez. Et c'est vrai que nous avons fait un grand pas en avant en ce qui concerne les félins. Les gens qui aiment pas voir des tigres ou des lions tourner en cage, en tout cas, chez nous, c'est pas le cas, voire très rarement le cas.
Voilà, très rarement le cas. Par contre, il y a le petit côté plus difficile pour le visiteur, c'est que des fois, on peut arriver et attendre une heure sans rien voir, quoi.
Exactement. Et voilà notre état d'esprit. C'est-à-dire que en payant un droit d'entrée, faut pas se cacher. On est un parc zoologique privé. Comme la plupart des parcs zoologiques en France, on a besoin des visiteurs pour vivre.
Oui,
sans visiteurs, pas de salaire, pas de nourriture pour les animaux. Je pourrais détailler la nourriture si vous le souhaitez.
Oui, tout à l'heure, bien sûr, ça va être intéressant.
Mais une chose intéressante, c'est que sans les visiteurs, le parc ne peut pas vivre. Donc, faut que les visiteurs puissent voir un petit peu les animaux. Mais notre créneau, c'est que pour une somme très faible, 14€ le prix d'entrée, les visiteurs sont transportés sur les quatre continents où il y a des félins. Et alors, une chose qui est assez intéressante, c'est que ils vivent comme dans la nature. Moi, j'ai l'habitude de voyager un petit peu. Ce qu'on veut faire saisir aux gens, c'est qu'on n'a pas tout tout de suite. On ne garantit pas aux gens de voir tous les animaux à l'instant T où ils arrivent. Il faut patienter un petit peu, observer, chercher. Et on a pour cela une équipe pédagogique qui, dans le parc, est là pour aider les gens, pour montrer les animaux, etc.
Oui, et par contre, ça apprend la patience. C'est une belle école aussi.
C'est une belle école. Ça apprend la patience. Ça apprend l'observation parce que beaucoup de gens disent, des fois, les animaux sont cachés, sont pas faciles à voir. C'est pas le cas. Faut savoir que le félin, à la base, a un pelage qui permet le camouflage. Donc, même s'il est très, très près, il va pas être visible. Et je peux vous garantir que, les animaux ont un rythme très, très proche du milieu naturel. Donc, ça, c'est très intéressant. Pas besoin d'aller en Inde ou au Kenya demain. On peut voir des animaux dans des bonnes conditions.
Et puis, il faut être patient, il faut attendre. Et en général, on arrive à voir un petit peu tout le monde, quand même.
On est récompensé, tout à fait.
On est récompensé. C'est quoi votre félin préféré, s'il y en avait un?
Moi, j'en ai 5.
Ah, alors.
5 sur 38 espèces. Non, le tigre a toujours été un animal fascinant en ce qui me concerne, mais c'est le cas aussi pour la plupart des gens. Il y a eu un sondage fait dans les années 2000.
C'est pas le lion qui arrive en premier, non?
Non, c'est le tigre qui est l'animal préféré de 60% des gens sur la planète, et c'est pourtant l'un des plus menacés.
Ah ouais.
J'aime énormément la panthère des neiges parce qu'elle est très très belle, très svelte, très zen. J'aime beaucoup le marguet, la panthère nébuleuse, le chat rubigineux qui est le plus petit félin.
Oui, en fait, vous les aimez tous.
Bah ouais, après les autres, voilà.
Parce que là, et puis pourquoi pas la panthère noire, et puis...
Exactement.
Eh bien, ce que je vous propose, c'est de marquer la première pause de cette émission à la découverte des parcs animaliers. Aujourd'hui, on fait un petit tour au parc des félins situé à Nesle, en Seine-et-Marne. Et dans un instant, on va découvrir justement les pensionnaires du parc des félins. À tout de suite sur Vivre FM. Seconde partie d'Animag, on retrouve Grégory Breton, on découvre le parc des félins situé à Nesle en Seine-et-Marne. Alors, les pensionnaires, on va faire comme si on était visiteurs, on rentre dans le parc des félins, et puis vous allez nous faire le tour, et puis on va s'arrêter sur chaque espèce, pas toutes, mais au moins les principales.
D'accord.
Alors, on vous écoute.
Eh bien, au parc, on a 30 espèces différentes de félins, donc c'est le mot, on l'aime pas trop, c'est le mot collection, mais c'est vrai qu'il y a une bonne représentation du monde des félins, puisqu'à l'état sauvage, il y a 38 espèces,
ah oui,
et nous en avons... Une trentaine,
voilà. Donc il en manque une. Et des félins, on en trouve sur tous les continents?
Sauf l'Océanie.
Ah, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas en Océanie, c'est-à-dire Australie, Nouvelle-Guinée,
Nouvelle-Zélande.
Eh bien, parce que avant la spéciation, avant que les félins envahissent tous les continents, l'Océanie avait déjà était déjà parti. Enfin, le continent avait déjà migré.
Mais il y a personne qui a eu un jour l'idée d'en remettre. Ça serait dommageable.
D'en mettre. Si l'homme en a mis, le chat domestique.
Ah oui, d'accord.
Et en Australie, le chat domestique pose de gros problèmes.
D'accord.
Alors bon, dans le parc, on a effectivement une trentaine d'espèces et de sous-espèces. Et une des particularités après ce déménagement, c'est d'avoir recréé différents circuits de visite, c'est-à-dire que le parc se visite pas d'une traite. Il y a quatre boucles différentes avec le circuit américain, circuit asiatique, circuit européen, circuit africain. On va retrouver les espèces en fonction de l'origine géographique de leurs arrière-arrière-arrière-grands-parents, puisque tous les animaux parc sont nés en captivité. On reproduit énormément, on pourra en parler aussi. On a pas mal de bébés en ce moment et bien en fonction de ces circuits, ben les gens vont découvrir les tigres ou les lions ou les jaguars, etc. Donc c'est un petit peu à la découverte du milieu du continent.
D'accord. Alors le lion par exemple, il est sur quel continent ?
Circuit africain. Voilà, il y a des lions en Afrique, il y en a également en Asie. Alors le lion d'Asie, c'est une sous-espèce que l'on aura dans le futur, mais bon, pour l'instant on n'en a pas puisqu'on a en lion, on a une vingtaine de lions au parc, trois grandes familles. C'est assez impressionnant.
Vous savez comment les lions ? Quel est le régime un peu des lions ? Est-ce que c'est il y a un mâle dominant ? Est-ce que c'est comment
exactement,
ça se passe ?
Exactement. Les lions sont les seuls félins réellement grégaires, avec organisés autour d'une société, c'est-à-dire que toutes les femelles sont sœurs, cousines, tantes, nièces.
Ah oui, carrément.
Puis, voilà, ouais, c'est vraiment une vraie société matriarcale. Et il y a à la tête du groupe un, deux, trois mâles qui peuvent être frères ou des amis d'enfance.
Mais il y a qu'un patron ?
Oui, ça tourne un petit peu. Il peut y avoir deux mâles suivant le nombre de femelles, en fait. Il peut y avoir un ou deux mâles dominants.
Pourquoi on dit que le lion, c'est le roi des animaux ?
Je ne sais pas.
Est-ce que c'est
dans l'esprit, comme on les contes d'il y a quelques années, quelques siècles, disent que le loup est un animal méchant.
Ouais.
On essaye d'attribuer tout un tas de sentiments et de qualités humaines aux animaux. Bon, le lion, le roi des animaux, un des arguments, c'est parce qu'il a cette grosse crinière autour de la tête qui fait penser à une couronne.
Voilà. Ah, d'accord.
Mais sinon, c'est pas l'animal le plus actif, puisqu'un lion dort à peu près 20 à 22 heures par jour.
20 à 22 heures.
Ouais. Okay. En captivité et dans la nature également.
C'est énorme. On va faire un petit peu des espèces comme ça. Le puma, ça vit comment? Le puma,
On le rencontre du Canada jusqu'au sud de l'Amérique. Donc c'est un félin qui a une grande aire de répartition.
Oui.
Peu menacé actuellement, hormis quelques populations américaines en Floride, par exemple. Le puma de Floride, il en reste une cinquantaine. Aux États-Unis, il a été très très chassé lors de la conquête de l'Ouest, et aujourd'hui, les pumas aux États-Unis d'Amérique, il en reste seulement dans l'Ouest. Il y en a plus à l'Est. Effectivement, il n'y a pas de puma qui se balade aux abords de New York.
On a domestiqué le chat. Si on l'avait pas domestiqué, il serait sauvage encore aujourd'hui. Il y aurait pas de.
Il y a des chats sauvages toujours.
Oui, il y en a toujours. Je veux dire, mais le chat domestique, est-ce que c'est le même ? Est-ce que c'est un cousin ?
Eh ben voilà, c'est là les découvertes ont été faites il y a peu de temps finalement. Les félins ont tous divergé, c'est-à-dire que les espèces sont apparues petit à petit il y a à peu près 12 à 10 millions d'années, donc ça remonte à un moment.
Oui, c'est énorme. Oui.
L'être humain n'était pas encore l'homme que l'on connaît aujourd'hui. Et puis, eh bien, au fur et à mesure de l'évolution de l'homme, hein, il y a seulement 2 à 3 000 ans.
Ah oui.
Il y a eu la domestication du chat. Donc c'est vraiment récemment, à l'échelle géologique, à l'échelle de l'évolution. Et l'humain a simplement domestiqué une espèce au niveau de la région de la péninsule arabique. Il a domestiqué le chat sauvage africain au niveau de l'Égypte, de l'Iran, l'Irak, la Mésopotamie et un petit peu à Chypre. C'est là où on retrouve les témoignages les plus anciens de la domestication, il y a 3000 ans.
Mais ça m'amène une question. On a réussi à domestiquer donc cet animal qui à la base était sauvage. Est-ce que demain on pourrait faire la même chose avec un tigre ou un lion, avec l'espèce tigre, l'espèce lion? Je dis pas qu'il faut le faire, hein, mais est-ce que c'est dans la logique des choses, ça pourrait être possible?
Eh bien non, puisqu'il y a des gens qui ont essayé. Je veux dire, aujourd'hui on est au 20e siècle, il y a des gens qui ont essayé de domestiquer le guépard, le caracal, le serval des sultans, des maharajas, qui depuis des centaines d'années, des siècles, ont essayé de domestiquer ces animaux. Ça n'a jamais pris. C'est les autres félins actuellement, hormis le chat sauvage qui est devenu le chat domestique, les autres félins ont tous peur de l'homme globalement.
Vous avez des naissances ?
Oui.
Globalement. Alors justement, vous avez un parc hein, où les visiteurs viennent voir. On a dit que c'était de la repro. Est-ce que le but quand même, c'est de sauver des espèces et peut-être de les relâcher dans la nature pour qu'ils se...
Tout à fait. Un bon exemple. Il y a un siècle, les parcs zoologiques prenaient les animaux dans la nature
oui.
pour les montrer aux gens, pour les montrer au peuple. C'était après les ménageries royales. Et au cours du XXe siècle, les parcs zoologiques sont passés d'un lieu de simplement d'exposition, de foire, à un lieu de conservation. Et donc aujourd'hui, la plupart des parcs zoologiques modernes travaillent ensemble, main dans la main. On a de nombreux collègues avec qui on échange des animaux à travers l'Europe, mais également à travers le monde. Et tous ces animaux font partie de programmes d'élevage. Donc voilà. En fait, c'est la vocation principale d'un parc zoologique aujourd'hui, même si nous sommes privés. On fait un travail conséquent pour la sauvegarde. Et je vais prendre un seul exemple et vous allez vite comprendre. La panthère de l'amour aujourd'hui qui est une...
Oh, c'est joli comme nom, c'est quoi la panthère de l'amour?
Panthère de l'amour, c'est une sous-espèce de léopard qui vit en Russie où coule le fleuve Amour.
D'accord, voilà. Tout simplement.
La panthère de l'amour, aujourd'hui, il en reste 30.
Ouais.
On est 6 milliards d'humains, cette panthère, il en reste 30 à l'état sauvage. Et à cause de la déforestation, du braconnage, bien sûr. Et en captivité, nous en avons 180. Depuis un petit moment, nous les reproduisons tous très très bien.
180 dans le monde entier, hein.
Dans les parcs zoologiques européens.
Européens, ouais. D'accord, ouais.
Et on les reproduit très très bien. Le zoo de Mulhouse a eu des petits dernièrement. Nous sommes en train d'en attendre également. Eh bien, cette sous-espèce de léopard, aujourd'hui en captivité, a une diversité génétique, un patrimoine génétique plus important que ce qu'il y a dans la nature. Donc actuellement, il y a un projet qui, je l'espère, verra le jour dans les 5 ans, mais il y a un projet de réintroduction d'animaux en Russie, là-bas. Alors attention, la réintroduction, hein, ça se fait pas comme dans les années 60 où on lâchait les animaux comme ça n'importe comment.
Oui.
Là, maintenant, il y a des vrais protocoles, et pour réussir à introduire des animaux, il y a des mesures à prendre importantes, quoi.
Vous avez déjà relâché des espèces ou pas encore?
Nous, le parc, non. C'est-à-dire que c'est pas une décision d'un parc zoologique, c'est globalement, c'est à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que si demain on nous dit vous avez un animal qui potentiellement peut être réintroduit parce que vos animaux vivent dans de grands enclos, eh bien à ce moment-là, on va répondre à la demande, bien sûr, mais c'est ponctuellement. Le gros problème de la réintroduction, c'est pas quelque chose qui n'est pas maîtrisé. Réintroduire des animaux aujourd'hui fonctionne. 50% des animaux réintroduits vivent sans problème,
oui.
50% vont décéder, c'est le taux normal, hein. Faut pas considérer ça comme un échec. Faut savoir que dans la nature, sur une portée de 2 ou 3 petits, il y en a 50% qui vont mourir.
Oui, ça c'est un petit peu la proportion
c'est
normale.
C'est la proportion normale. Ouais. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la réintroduction, on connaît, mais on maîtrise aujourd'hui, mais le gros problème, c'est qu'il n'y a plus d'espace sauvages pour ces animaux, et notamment les félins qui, à 80%, vivent en forêt. Il n'y a plus de forêt pour les accueillir.
Eh bien, on va se retrouver dans un instant pour la troisième partie d'Animag à la découverte des parcs animaliers. Aujourd'hui, on reçoit le parc des félins situé à Nesle, en Seine-et-Marne. À tout de suite pour la troisième partie d'Animag. Troisième partie d'Animal, je reçois Grégory Breton. Vous êtes un des responsables du parc des félins à Nesle, en Seine-et-Marne. Vous pensez quoi des animaux qui sont blancs, albinos, les félins albinos? Il y a des zoos qui communiquent beaucoup là-dessus, donc.
Oui, tout à fait.
Est-ce que déjà c'est un défaut génétique?
C'est un défaut génétique.
Est-ce que c'est un animal qui pourrait vivre dans la nature comme ça?
Non.
Donc globalement, c'est pas très.
Je vais démystifier un petit peu. C'est-à-dire que c'est vrai que beaucoup de parcs zoologiques et communiquent avec ces tigres blancs, ces lions blancs, des panthères noires, des antilopes blanches. Le zoo de Barcelone avait un gorille blanc.
Oui, il y a des gorilles aussi. Ouais.
Il faut savoir que ces animaux à la base sont des erreurs entre guillemets de la nature. Alors ils ont le droit de vivre évidemment, mais c'est des anomalies génétiques qui sont apparues, et ces animaux qui ne vivraient réellement pas dans la nature à l'état sauvage, leur qualité d'adaptation sont moindres. Alors communiquer sur ces animaux, c'est quand même important, puisque j'en reviens à l'aspect mercantile. C'est des animaux qui, dans l'esprit d'un genre aujourd'hui, à cause des parcs mais aussi des médias, il y a 10-15 ans, ont été mis sur un piédestal comme des animaux exceptionnels, etc. Et donc aujourd'hui, dans l'esprit des gens, on pense que ce sont des animaux rares. Le tigre blanc, on pense qu'il est rare, qu'il vit dans la neige. C'est pas du tout le cas. Et donc bon, grâce à ces animaux-là, les parcs peuvent vivre et fonctionner et faire le travail qu'on fait pour la conservation. Donc nous, on se cache pas, on a des tigres blancs, mais nous avons aussi des tigres de Sumatra, très très menacés, tigres de Sibérie, tigres de Malaisie. Et en fait, l'attrait des tigres blancs va permettre de parler des autres sous-espèces et de parler des menaces qui pèsent sur les tigres de façon globale. Et c'est ça qui est très très important. Donc pour en revenir au pelage, faut savoir qu'il y a même eu un tigre bleu qui est né dans un parc zoologique. Alors quand je dis bleu, c'est bleu-gris,
oui.
Qui est né dans un parc zoologique allemand. Chez les félins, à l'état sauvage, il y a des mutations qui apparaissent de temps en temps et qui vont changer les motifs du pelage ou altérer les couleurs. Et ça, c'est très intéressant. Il y a des cervales noires qui ont été vues dans les montagnes au Kenya, à côté de panthères noires. Il y a des panthères nébuleuses noires, des chats des marées noires.
Oui, donc, il y a
des couleurs comme ça qui apparaissent, mais à l'état sauvage, les couleurs ne subsistent pas, ces anomalies de couleurs, parce que ça n'apporte pas de grands intérêts, hormis pour ces panthères noires, puisque des panthères noires, il y en a dans les milieux forestiers.
Comme ce sont tous des félins, est-ce qu'on pourrait marier un tigre avec un lion ?
Ah, ça fonctionne. Il y a des parcs qui le faisaient il y a 60 ans.
Ça n'a aucun intérêt, mais...
Il y a 40 ans, il y a 30 ans en France, ça n'a pas d'intérêt. Aujourd'hui, les parcs zoologiques sérieux ne le font plus. Il y a encore un ou deux établissements aux États-Unis et en Australie qui hybrident, puisque c'est le terme.
Hybrider
un tigre avec un lion. Donc en fait, il faut prendre une femelle. Par exemple une lionne avec un tigre et on va appeler ça un tigron, et si on prend une tigresse avec un lion on va appeler ça un ligron. Ça va être des hybrides stériles qui n'ont aucun intérêt pour la conservation, mais ça peut fonctionner, comme il y a des hybrides de léopard et de jaguar. C'est des lapjags entre guillemets.
Ah oui, carrément. Ouais. Mais ce que je veux dire,
il faut savoir que même chez nous, oui, maintenant il y a une mode qui est venue des États-Unis, on hybride le chat domestique avec les chats léopards du Bengale ou avec des cervales, quelque chose nous on est fortement opposé, puisque ça entretient le trafic d'animaux sauvages.
Voilà, c'est ça, ouais. C'est parce que, au début, on disait que c'était pour éradiquer certaines maladies que les animaux sauvages n'avaient pas, mais ça, c'était pour donner bonne conscience, peut-être.
Exactement.
Au niveau nourriture, alors, qu'est-ce que ça mange, tout ce petit monde?
Les félins sont des animaux carnivores.
Vous avez une boucherie intégrée? Comment ça se passe?
Oui, presque, c'est presque ça. Les félins sont des animaux carnivores, c'est-à-dire que, parmi les mammifères, ce sont même ceux qui sont le plus carnivores, ils sont strictement carnivores.
C'est-à-dire qu'ils ne mangent que de la viande.
Ils ne mangent que de la viande. Les ours vont manger du miel, des baies, etc., des herbes. Les loups vont manger un peu d'autres choses. Tandis que les félins, ils ne peuvent vivre qu'avec de la viande. Et ça, c'est assez intéressant, puisque nous, en termes de volume, je vais donner quelques chiffres. Par an, pour nourrir nos 140 félins, il nous faut à peu près 200 vaches, 5 à 6 000 poules, 5 à 6 000 lapins, 3 000 poussins, des cailles, des cochons d'Inde, des hamsters, du poisson, des vitamines. Les vitamines, ça se chiffre en, on a 150-200 kilos de vitamines par an.
Ah oui, c'est
donc
énorme.
C'est des gros, alors on peut pas élever tous ces animaux sur place et on se tourne vers des prestataires, les abattoirs pour la viande de bœuf, des éleveurs de rongeurs, des éleveurs de poulets, etc., etc. Donc ça fait un sacré budget, hein.
Oui, ça doit faire un sacré budget parce qu'il faut que ça mange, hein.
Oui, en plein hiver, nos félins qui vivent dans la nature, puisque, bon, contrairement à ce qu'on pense, les tigres ou les lions, vivent très bien sous nos latitudes en hiver. Il y a pas de souci à partir du moment où on les nourrit bien et qu'ils ont des abris un peu au sec. Le froid ne les dérange pas, c'est un peu plus l'humidité. Eh bien, l'hiver, pour maintenir ce petit monde, on va donner des grosses rations, et certains tigres et lions au parc vont manger jusqu'à 18-20 kilos tous les deux jours.
Ah oui.
C'est viande.
C'est non. Est-ce que les visiteurs peuvent assister justement à la nourriture?
Non, on ne le fait pas. Alors ça, c'est aussi une chose qui peut être perçue comme très négative dans notre établissement. Mais on veut pas donner de fausses idées, puisque les félins, l'état sauvage, un tigre est un animal, on va dire, parfait pour la chasse. Mais quand il va chasser, 15 fois sur 16, ou 19 fois sur 20, il va revenir bredouille.
Il va rater ça, comme le chat s'il veut chasser.
Alors qu'il a des armes parfaites, tandis que les chats domestiques, les cervales, c'est plutôt 1 sur 3. Mmh. Le tigre, c'est 1 sur 15. Donc, on nourrit nos animaux un jour sur deux, un jour sur trois, pour ce qui est des grands félins. Les petits félins mangent tous les jours. Donc forcément, on essaye de varier les heures de repas. C'est pas tous les jours, de façon à ce qu'il n'y ait pas une dépendance vis-à-vis de la nourriture et qu'ils vivent de façon le plus naturelle possible. Peut-être qu'à l'avenir on nourrira, mais moi ce qui m'intéresse, c'est la vocation pédagogique, puisque nous recevons plus de 40 000 enfants ici au parc par an.
Oui.
Moi ce qui m'intéresse, c'est que les enfants qui n'ont pas la chance d'aller voir un lion chasser un zèbre ou une impala en Afrique, c'est qu'un jour on arrive à mettre une vache entière morte, bien sûr, mais dans un enclos, pour montrer comment les lions en famille, puisqu'il y a cette société, comment les lions en famille mangent. Et ça, c'est la vocation pédagogique importante. C'est pas simplement un petit kilo de viande qu'on balance comme ça.
Qui c'est qui mange en premier, comme ça? C'est le mâle dominant?
Justement, oui, chez les lions, c'est les mâles qui se servent en premier, et les petits sont à la fin de la chaîne. Si il y a une année de disette, il vaut mieux, quand on est félin, sacrifier les jeunes.
Oui.
Et que les adultes survivent, tout simplement parce que la gestation est très très courte. Un lion, c'est 3 mois, 2 semaines. Donc s'il y a une portée qui ne survit pas, on s'accouple et 3 mois, 2 semaines après, ça recommence.
Et ils peuvent même se manger entre eux?
Non.
Non, ça par contre, c'est un instinct.
Non, il y a effectivement ce que l'on appelle de l'infanticide chez les lions, mais c'est pas le papa qui va tuer ses petits. C'est des mâles satellites qui veulent piquer la troupe.
D'accord.
De femelle à un autre mâle. Et donc quand ils arrivent à évincer le mâle en chef, eh bien, ils vont tuer tous ces petits. Les femelles retombent en chaleur dans les 10 jours et les nouveaux mâles arrivés vont avoir leurs propres petits à élever. Donc ça, c'est un cas, c'est assez compliqué. C'est la dure loi de la jungle, comme on dit.
Le parc des félins militants, sur votre dossier de presse, vous militez aussi pour tout ce qui est trafic, tout ce qui est chasse.
Tout à fait. Sur le parc, nous avons 140 félins. Je vous ai dit qu'ils sont tous nés dans la nature. Hormis quelques individus qui nous ont été confiés par les douanes, puisqu'effectivement, il y a encore des gens qui cherchent à avoir ces
ça
animaux.
Ça arrive encore
que... Il y a encore des gens qui cherchent à avoir ces animaux à la maison. C'est complètement illégal d'avoir un tigre, un léopard, une panthère, un chat de Geoffroy, un chat rubigineux à la maison. Complètement illégal et je dissuade les gens de faire cela, puisque à moins d'avoir des très bonnes connaissances sur les animaux, ils n'auraient pas des bonnes conditions pour vivre. Donc on a des animaux qui nous sont confiés, mais quand notre parc est militant, on est militant sur d'autres choses aussi, beaucoup sur la consommation. Il faut savoir que aujourd'hui en France, comment parler de la sauvegarde du tigre? C'est compliqué puisque le tigre vit uniquement en Asie. Si on ne va pas en Asie, on estime qu'on va, on n'a rien à faire pour la conservation du tigre. Eh bien, bien au contraire, aujourd'hui en Europe, aux États-Unis, au Japon, dans notre quotidien, on tue des tigres.
C'est-à-dire?
Je vais développer. C'est ce que l'on fait au parc et c'est ce qui nous touche énormément. C'est cet aspect éducation. C'est-à-dire que si vous mangez certaines marques très connues de pâte à tartiner, de biscottes, de pain de mie, de céréales,
oui,
vous allez tuer des tigres, tout simplement parce que tous ces produits contiennent ce que l'on appelle de l'huile de palme,
oui,
qui a été remplacée depuis 10-15 ans par les industriels.
Ah oui, donc c'est indirectement qu'on tue les tigres.
Et ben voilà, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, avant, nos produits industriels en Europe contenaient de l'huile de colza, d'arachide, qui poussait dans nos terres. Depuis 10-15 ans, ils cherchent à avoir de plus gros profits. Eh bien là, ils vont prendre de l'huile de palme qui pousse à la place des forêts en Indonésie. Et aujourd'hui, Sumatra, il y a presque plus de forêts, donc les orang-outans disparaissent, les rhinocéros, les tigres disparaissent. Il y a des palmiers à huile qui sont plantés, on récupère l'huile et puis vous voyez. Et puis si la même chose, les gens qui ont acheté des choses, des salons de jardin, des tables, des meubles en teck, hop, directement ils vont tuer des animaux sauvages.
On se retrouve dans un instant pour la quatrième partie d'Animag. On va continuer à découvrir le parc des félins situé à Nesle. Et attention au salon en teck alors. À tout de suite sur Vivre FM. Quatrième partie d'Animag et déjà dernière partie avec Grégory Breton. On découvre le parc des félins situé à Nesle. Alors, il faut combien de temps? Une journée complète pour découvrir le parc?
Oui, nous recommandons de rester au minimum 4h, 4h30 pour bien découvrir tous les félins, toutes les choses qu'il y a à faire.
C'est mieux le matin ou l'après-midi? Il y a pas de...
Le matin, l'été est très très bien, ou la fin de journée. Hors mi-saison, c'est le parc est très agréable. On voit très très bien les animaux. Moi, je recommande de rester. Faut surtout quand on arrive à midi, rester plus longtemps que 14 heures, puisque les chats font la sieste. Comme votre chat domestique, quoi.
Voilà. Le plus petit des félins.
Chat rubigineux.
Combien?
1 kg, 1,5 kg.
Ah oui.
C'est vraiment petit.
Et là, c'est sauvage. Sauvage.
Ouais. Il vit au Sri Lanka, en Inde. Il y a 7 parcs zoologiques au monde à en avoir.
Oui.
On est un des seuls à les reproduire. Et à l'état sauvage, il n'y a pas plus de 10 photos. C'est un chat impossible à suivre.
À ce point-là?
Ouais. Il y a des millions de photos de lions et il y a 10 photos de chats rubigineux. Donc,
d'accord. Le plus grand?
Tigre de Sibérie. Donc, les lions sont des gros animaux.
Ah, c'est plus gros, un tigre de Sibérie.
Mais les tigres de Sibérie sont plus gros, ouais.
Au niveau du poids, ça fait quoi, à peu près?
Le record à l'état sauvage, 385 kilos.
Ah oui.
C'était un animal obèse qui avait des problèmes pour chasser. Donc, il mangeait des humains. Il a été abattu.
D'accord.
En captivité, on va avoir des tigres qui pèsent jusqu'à 300 kilos. Au-delà, c'est des animaux obèses, hein.
Ouais, donc c'est pas du tout dans le standard.
Non, mais 300 kilos, 250 kilos, voilà. Mais c'est que surtout ces animaux très puissants au niveau du cou, des pattes avant, de l'encolure, et ils sont assez hauts et assez longs, et ça c'est impressionnant.
Celui qui court le plus vite?
Le guépard, 100-110 km/h, suivant la littérature. Un animal très fragile, c'est le seul félin.
C'est un athlète, quoi, en fait.
Oui, c'est un athlète. Ouais. Il va être un petit peu à part de tous les autres félins, bien qu'il soit bien véritablement ancré dans cette famille. Mais il est un peu à part parce que il chasse derrière ses proies en courant, donc sur maximum 500 mètres, il va courir faire des sprints pour attraper des antilopes, des impalas, des springboks, alors que tous les autres félins vont plutôt chasser à l'affût et se rapprocher le plus près des proies.
Tout doucement, d'accord. Lui, il chasse pas du tout la même chose. Ouais. D'accord. Donc, il court très vite. Est-ce que vous avez une relation avec les félins? Est-ce que, sans faire d'anthropomorphisme, mais est-ce que bon, ils sont quand même en parc, ils vous voient tous les jours, est-ce qu'ils vous reconnaissent, est-ce que...
Eh bien, pour assurer notre mission pour la conservation des espèces, on préfère avoir le moins de relations possibles avec ces animaux. C'est-à-dire que notre travail est à l'opposé du travail des cirques, des dressages, du cinéma, etc. Nos animaux vivent dans de grands espaces. Alors bien sûr, il y a une sorte de petit affectif qui se développe. Je veux dire, les animaliers qui s'occupent de ces animaux prennent soin de leurs animaux, les aiment bien. Mais c'est pas pour autant qu'il y aurait danger si on allait avec eux. On ne rentre jamais avec nos grands félins. Ils nous reconnaissent, ils s'approchent de nous, ils viennent nous voir. Des fois, il y a certains tigres ou léopards ont des feulements amicaux, un peu du style...
Mais voilà. Vous n'allez pas le caresser pour
autant. Mais non, on s'interdit tout cela, puisque ce sont des animaux qui ont une puissance telle qu'ils pourraient faire du grabuge, quoi.
Votre plus beau souvenir parmi les félins, s'il y en avait un?
Alors, je vais parler au nom de l'équipe, parce que le parc existe depuis 3 ans et demi où nous sommes, et puis depuis... plus de 10 ans avec le parc d'Ono. Parmi nos plus beaux souvenirs, la naissance de 3 tigres de Sibérie à Ono. Notre femelle est de nouveau gestante, on devrait en avoir d'autres. 3 tigres de Sibérie, une des sous-espèces les plus menacées, avec une maman qui était très maternelle, leur apprenait à nager, etc. Donc c'est vraiment des moments intéressants. La naissance, il y a peu, des premiers chats dorés en France, c'est jamais arrivé
avant. C'est quoi un chat doré ?
Chat doré, un chat de 10-15 kilos. Roux ou gris avec quelques marques sur la face et l'arrière de la queue tout blanche, vit en Chine, en Asie du Sud-Est, c'est assez rare. Et effectivement, il y a très très peu de parcs qui arrivent à les reproduire comme on le fait. La naissance de Marguet aussi, un des plus petits félins, très très arboricole.
Et vous allez avoir des nouveautés, donc vous essayez de...
Alors,
il y a des petits scoops à nous donner là.
Des petits scoops. Alors, je ne vais pas pouvoir vous parler des nouveautés, évidemment, puisque c'est secret, mais il y a des choses qui vont être mises en place, pas pour cette année, puisque on a déjà fait beaucoup l'année dernière. On aura d'ici un an et demi, une grosse nouveauté avec l'âge d'autres animaux qui arriveront. Ça sera très très intéressant. On va approfondir notre travail pour la sauvegarde des félins. Cependant, pour cette année, les petits scoops, guettez notre site internet, puisqu'on va annoncer un certain nombre de choses très intéressantes. On a effectivement cette année plusieurs femelles qui sont gestantes, des femelles très importantes pour les programmes d'élevage, très importantes pour les félins menacés. Et donc
il faut aller voir régulièrement sur le site et puis vous viendrez nous en parler l'année prochaine dans Animag. On peut manger sur place, hein, c'est le côté important quand même.
Voilà. Avec attention, un restaurant, on est à 99% sans huile de palme. Ah. On a fait cette démarche jusqu'au bout.
Ouais, bah,
quelques produits qui sont difficiles encore, on cherche des alternatives, mais je dis à 99% et c'est le cas. C'est-à-dire que le discours que l'on a, on essaye de le tenir jusqu'au bout.
Est-ce que le parc est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Tout à fait, il est tout plat, aucun problème.
Il est tout plat, hein, c'est fait exprès, que ce soit en fauteuil ou avec les poussettes, hein, y a pas de problème. On a dit 14 euros le prix. Il est ouvert toute l'année ?
Toute l'année, à l'exception d'un mois en hiver et de quelques lundis en hiver.
Oui, ce qui est logique. Hein. Alors, on a vu qu'on pouvait découvrir une trentaine d'espèces de félins. Hein. C'est sans... Vous êtes nombreux à travailler ?
25 permanents, une quarantaine en saison touristique. Pour faire simple, on a une quinzaine de personnes qui travaillent sur le parc pour les animaux, l'aspect technique et puis le personnel d'accueil qui est bien sûr gonflé en saison touristique.
Beaucoup de vétérinaires, enfin un vétérinaire qui travaille...
On a une vétérinaire assez connue dans le monde des parcs zoologiques puisqu'elle est consultante dans de nombreux parcs. Elle vient une fois par mois et puis on a les services de quelques vétérinaires dans les alentours. Savoir que les félins en captivité sont des animaux qui posent très peu de problèmes. Les animaliers du parc, moi-même et le directeur, on est à même de traiter 90% des soucis.
Il n'y a pas de grosses pathologies, non ?
Non, non, non. Vaccin, vermifuge, et c'est de la prévention. On va faire 90% des soins.
Et donc, comment ça se passe ? Vous êtes obligé d'endormir l'animal ?
Non, même pas. Ouais. Les vermifuges dans la nourriture et les vaccins avec une fléchette hypodermique. Ce qui est très intéressant, c'est que sur nos 140 félins, on n'en endort pas plus de 10 par an, quoi.
Ouais.
Donc, c'est vraiment rare. À partir du moment où ils ont un environnement agréable pour eux, sans problème.
Il n'y a jamais eu de petits soucis où le lion sort de sa clôture et va voir le tigre ou vice-versa?
Non, c'est jamais arrivé. Bon, nos enclos sont très très grands, il y a de l'espace entre les enclos, les lions sont loin des tigres par exemple, donc pour puis nos clôtures sont vérifiées, etc. Alors faut savoir que les accidents au parc zoologique peuvent arriver.
Bien sûr.
Il y en a généralement un par an au monde. Maintenant, c'est pas toujours avec une issue dramatique. Nous sommes tous des gens autorisés à avoir ces animaux. Il y a tout un tas de réglementations. Nous sommes très bien contrôlés. Bon, après, effectivement, le risque zéro n'existe pas. Mais dans très, très, très peu de cas, il se passe de choses dramatiques. Et au contraire, visiter notre parc se fait en toute sécurité. Il n'y a pas de problème.
Puis on va le répéter, hein, c'est les félins, ils ont leur leur maison à eux. Hein, on va pas les déranger. Hein, c'est plutôt exactement. L'inverse. Hein, c'est plutôt eux qui viennent nous voir, en fait.
Exactement.
Hein. Enfin, c'est un peu l'inverse, mais c'est eux qui viennent nous voir.
C'est ça. Ils vivent 365 jours par an. Ça, c'est ça qui est très rigolo. C'est parce que ils sont chez eux. Et à la limite, c'est nous sommes aussi une curiosité, puisque eux, ils ont des grands, grands espaces. Ils ont la possibilité de se mettre où ils le souhaitent. Ils ont des endroits préférés suivant les moments de la journée. Et donc, on vient vraiment leur rendre visite plutôt que l'inverse.
Eh bien, merci beaucoup d'être venu. On va rappeler le site internet hein, du Parc des Félins.
www.parcdesfélins.com, félins ouais. Sans accent, avec ouais. Ou sans tirer.
Voilà, tout simplement. Voilà. Puis si on tape Parc des Félins sur Google, par exemple, je pense qu'on va tomber dessus. Ouais, ça se situe à Nesle, en Seine-et-Marne. C'est à combien de kilomètres de Paris?
C'est à 50 km de Paris, c'est au niveau de la N4, donc
facile d'accès,
très facile d'accès. Et depuis l'année dernière, on peut même venir en transport en commun de Paris. Alors il y a tout d'abord le Transilien, puis une ligne de bus qui s'arrête au pied du parc. Donc ça, c'est vraiment un gros gros plus pour notre établissement. Et en moins d'une heure, vous pouvez venir au parc et repartir le soir même. Les horaires de bus sont également sur le site internet. C'est tous les jours sauf le dimanche et jours fériés, je crois.
Eh bien, merci beaucoup Grégory Breton d'être venu. Et puis, allez tous au Parc des Félins. Merci à David Leprince pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre parc.